Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de One Podcast, le podcast qui vise à rendre aux ressources humaines ses lettres de noblesse. Que vous soyez dirigeant, RH, manager ou étudiant RH, ce podcast décortique les enjeux des ressources humaines. Peu importe votre taille et votre secteur, vous êtes tous concernés. L'objectif de ce podcast, vous apporter des conseils pertinents pour booster vos pratiques RH, que vous soyez novice ou expert. À la fois sur les sujets de marque employeur, de culture d'entreprise, de management des différentes générations, ce qu'on appelle l'intergénérationnel, ou encore de la RSE et de la diversité. Comment ? À partir d'exemples concrets et des interventions de nos invités, vous repartirez avec toutes les clés en main pour simplifier et booster vos RH et ainsi amener vos entreprises à devenir encore meilleures. Qui sommes-nous ? OneRH est une société de conseil en ressources humaines basée à Strasbourg qui vous aide à définir et à mettre en œuvre une stratégie et des pratiques RH et managériales adaptées aux enjeux actuels. Vous êtes prêts ? Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans l'univers passionnant de One Podcast. Aujourd'hui, c'est moi, Frédéric Wirth, cofondateur de OneRH, qui sera votre guide pour ce moment de partage. Qui suis-je ? Un passionné de RH, mais aussi de SIRH, qui a à cœur d'amener nos consultants et nos clients à constamment se dépasser pour viser les sommets. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Michel Descaillot, DRH du groupe Rodrer, qui va nous apporter son éclairage sur comment façonner sa culture d'entreprise et ses valeurs pour un management inspirant. Un sujet qui, je le sais bien, vous tient à cœur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours professionnel et sur le groupe Rodrer ?
Bonjour Frédéric, enchantée en tout cas d'être avec vous aujourd'hui. Donc le groupe Rodrer, donc c'est 350 personnes et c'est une histoire de 130 ans, une histoire familiale. Donc aujourd'hui c'est Geoffroy Rodrer, la quatrième génération qui préside le groupe et donc la cinquième génération donc est aussi au sein de l'entreprise, ses deux fils pour prendre la relève. Donc le groupe Rodrer est donc un courtier en assurance de biens et de personnes, leader au niveau du Grand Est, que j'ai rejoint avec beaucoup de plaisir depuis 18 mois en tant que DRH Group. Mon parcours, en fait, il s'est fait en Alsace depuis plus de 30 ans, toujours en RH, soit sur des postes de direction RH généraliste ou spécialiste, dans de belles ETI familiales, dans des grands groupes internationaux, toujours animé par une forte culture d'entreprise, on va en parler, et avec des enjeux très forts en termes de transformation d'entreprise, de développement des hommes et des femmes.
Merci beaucoup Michel pour cette présentation. Alors si on rentre dans le vif du sujet, pouvez-vous nous expliquer finalement quelle est l'importance de la culture d'entreprise et comment cela va influencer le quotidien de vos équipes ?
Donc la culture d'entreprise, en fait, elle est le reflet des valeurs, des comportements associés et des pratiques, ce qui définit le fonctionnement au sein même d'une entreprise. Et ce qui compte, c'est qu'elle soit vraiment partagée et incarnée. Une culture forte d'entreprise favorise la coopération, l'engagement, la collaboration et la confiance surtout, pour justement mener à bien tous les projets stratégiques que l'entreprise vit. Et ça, c'est hyper important, en fait.
Et au sein du groupe Rodrer, quelles sont les valeurs fondamentales, finalement, qui animent les équipes au quotidien ? Et est-ce que ça s'est transmis de génération en génération ?
Donc, les valeurs fondatrices de l'entreprise sont l'humanisme, l'expertise, l'agilité. Ces trois valeurs ont d'ailleurs été choisies par les collaborateurs en 2020-2021, lorsqu'on a rédigé, établi et défini notre plan stratégique pour 2024. Et ces valeurs, en fait, reflètent exactement notre secteur d'activité, puisque comme on protège les biens et les personnes, automatiquement, on a besoin d'expertise, d'agilité et surtout d'humanisme pour comprendre les besoins des entreprises afin de protéger au mieux leurs biens et surtout leurs équipes.
Et alors, quand vous recrutez un nouveau collaborateur, finalement, est-ce que vous êtes vigilant à ce que ces valeurs soient déjà dans l'ADN de ce futur collaborateur ou est-ce que vous avez un travail dans le cadre de l'intégration, finalement, pour qu'il s'adapte aussi à ces valeurs et qu'il en prenne possession ?
Je dirais les deux, en fait. C'est que déjà, ce qui est important, c'est de comprendre l'ADN de l'entreprise, puisque c'est un secteur quand même très technique, donc ça c'est important, mais en même temps cette technicité-là, elle évolue puisque compte tenu du monde d'aujourd'hui, donc c'est quand même assez volatile. Et automatiquement, ce qu'on fait et ce qu'on regarde vraiment, c'est en termes de recrutement, c'est les soft skills des personnes. Et nous, ce qui compte vraiment, c'est les trois valeurs que je vous ai dit, nos trois valeurs fondamentales. Et dans le cadre des entretiens, et lorsque ces personnes sont sélectionnées, on s'attache vraiment et on s'assure à ce que dans le cadre de l'intégration, on s'est pas trompé et que surtout la personne s'est pas trompée non plus, puisque c'est quand même un rapport de confiance et c'est une relation à deux. Donc c'est important qu'on fasse un bout de chemin ensemble.
C'est sûr. Donc dans le cadre d'un recrutement, finalement, de la croissance interne avec des candidats que vous intégrez, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Dans le cadre de croissance externe, ça a été le cas pour le groupe Rodrer dans un passé récent où vous avez intégré des sociétés externes au groupe. Donc il y a un ADN commun puisque c'est des métiers qui sont similaires, mais finalement, l'entreprise qui intègre bien aussi avec sa culture d'entreprise qui peut être forte, qui peut être ancienne. Comment est-ce que vous assurez que le melting pot se passe bien entre les différentes structures et que finalement ça prenne bien?
Ce qui compte déjà, c'est de prendre le temps de faire connaissance, puisque comme je vous l'ai dit, une culture d'entreprise, c'est le reflet même des valeurs, des comportements et des pratiques qui justement facilite le fonctionnement en entreprise. Donc ce qui compte déjà quand on se rapproche d'un autre cabinet, c'est de prendre le temps d'observer justement ses valeurs, ses comportements, ce mode de fonctionnement et d'apprendre à se connaître, et l'objectif étant de prendre effectivement le meilleur des deux et de faire en sorte que les valeurs fondamentales, en l'occurrence les valeurs fondamentales de Rodrer, soient respectées, et le tout dans une belle cohérence afin justement d'être aligné sur la stratégie globale.
Donc un rapprochement, finalement, c'est un challenge et ça pousse à faire de l'amélioration continue pour les équipes en place et pour se surpasser. Est-ce que finalement on est sur des choses pas toujours très tangibles? Est-ce que vous arrivez à mesurer finalement l'engagement des collaborateurs et l'adéquation avec les valeurs dans le quotidien?
Écoutez, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Donc en 2023, accompagné de ED Institut, on a donc lancé une enquête de qualité de vie et conditions de travail sous la thématique « Bien vivre ensemble ». Justement, c'était vraiment un besoin par rapport au rapprochement qu'on avait eu en 2020 et qui s'est fait de manière concrète donc en novembre 2022, pour pouvoir comprendre justement les attentes du terrain et de mettre en place des plans d'action qui soient conformes à la réalité des besoins au niveau de l'entreprise. Et donc, on a mesuré, en fait, à travers cette enquête, un certain nombre de paramètres, notamment toute la partie fierté d'appartenance, sentiment d'utilité, donc l'épanouissement au travail, et puis également toute la partie, comme je vous le disais, conditions de travail. Et à partir de là, on a eu un super taux de participation, on a eu 84% de taux de participation qui nous a permis, en fait, de manière assez simple, de définir des quatre axes prioritaires au niveau de l'entreprise. Et également, lorsqu'on a décliné l'ensemble des résultats sur toutes les directions et tous les services, d'ajuster en fonction du besoin et au plus proche des équipes des plans d'action, donc vraiment adaptés aux besoins des personnes.
Quand on parle de plan d'action, ça consiste en quoi concrètement ?
Concrètement, on a mis en place quatre axes prioritaires, quatre plans d'action sur notamment la politique de rémunération, où les personnes estimaient qu'elles n'étaient pas assez donc transparentes, équitables et responsables. C'est tout frais. Je viens de terminer cette politique de rémunération et à partir de la semaine prochaine, on déploie justement la communication. Et cette politique était au cœur de nos NAO cette année. Deuxième axe, c'était sur la partie donc prise d'initiative. Donc là, on travaille beaucoup avec les équipes pour mettre en place des groupes de travail, donc composés d'un certain nombre de personnes d'un point de vue transverse, justement pour pouvoir intégrer aussi les besoins de chacun et tenir compte de la culture d'entreprise de chacun. Donc ça, c'est important. Troisième axe, c'était justement améliorer toute la partie espace de travail, restauration et salle de pause. Donc là, je ne peux pas vous en dire beaucoup sur ce sujet-là, mais on a un beau projet qui s'annonce pour justement favoriser le bien vivre ensemble sur tous les sites. Et puis le quatrième donc axe, c'était sur la charge de travail. Et donc là, on s'est fait épauler d'un consultant spécialiste justement donc sur cette thématique-là, pour pouvoir justement comprendre cette charge de travail et agir en conséquence et adapter notre mode de fonctionnement et justement pour permettre aux personnes d'être dans un équilibre vie privée et vie professionnelle adapté.
Super, de beaux projets à suivre. On ouais. a hâte de découvrir ça en vous suivant. Et finalement, ce travail via, vous le disiez, via ED Institut, c'est quelque chose qui était une nouveauté de faire cet exercice ou c'est quelque chose qui se fait régulièrement dans, finalement, ce cadre, on parlait d'amélioration continue. Voilà, est-ce que c'est dans ce cadre-là ou c'était finalement une opportunité? Enfin, d'où est venu finalement ce besoin?
Alors, cette enquête sous cette forme, c'était la première fois. Mais bien avant, il y a eu des enquêtes auprès des salariés, mais pas sous cette forme-là. Donc celle-ci, elle était vraiment très très axée qualité de vie et conditions de travail, avec des questions autour du management, autour justement de l'organisation, de l'équilibre vie privée vie professionnelle, autour aussi de toute la partie conditions de travail. Donc là, sous cette forme-là, c'était la première fois, ce qui nous a permis justement, avant de lancer un plan, une feuille de route RH, de bien identifier justement les besoins pour ne pas faire des choses qui ne servent à rien. Et ça, c'était hyper important. En tout cas, pour moi, c'est hyper important de mettre en place des choses qui sont d'abord qui répondent aux besoins stratégiques de l'entreprise, mais qui est en adéquation avec les attentes des salariés. Donc ça, c'était super important. Et cette année, on a décidé de refaire, pas toute l'enquête, mais au mois d'avril, on prépare là une enquête flash, justement pour mesurer la progression de ce qu'on a mis en place depuis un an et ajuster aux besoins toutes les actions terrain qu'on a déployées.
Ok. Et vous parlez des attentes des salariés, on parle souvent des chocs de génération.
Oui.
Est-ce que les attentes et l'engagement par rapport aux valeurs qui sont celles du groupe Renner, est-ce que ce sont les mêmes ou est-ce qu'il peut y avoir des petites divergences entre les différentes générations ou finalement c'est un collectif global qui vit très bien?
Alors moi, je suis pas très pour séparer les générations. Pour moi, toutes les générations ont leurs avantages, comme d'ailleurs leurs besoins. Et pour moi, ce qui compte, c'est vraiment l'intergénérationnel. Et ça, pour moi, c'est hyper, en tout cas, c'est hyper inspirant en tant qu'RH, puisque là, on a la chance, à l'heure actuelle, d'avoir plusieurs générations en même temps. Et moi, je crois beaucoup à apprendre mutuellement des uns et des autres en fonction, justement, de là où on vient, de notre expérience, de notre âge, de notre ancienneté. Et ce qui compte, en tout cas, chez Roderer, ce qui est important, c'est qu'on vient comme on est et on crée des environnements justement pour permettre aux uns et aux autres d'être valorisés, respectés. Ce mélange entre guillemets de générations fait que on apprend, on progresse et on apprend plus vite en fait.
Et du coup, parce que vous parlez d'intergénérationnel, et finalement, comme vous le disiez en introduction, on en est déjà à la quatrième génération dans le groupe, la cinquième est en route.
Oui.
Est-ce que il y a aussi ce rôle finalement de la direction qui incarne ces valeurs et comment ça se fait au quotidien avec ce passage de flambeau d'une génération à l'autre que vous avez peut-être pas encore totalement vécu parce que vous êtes récent dans le groupe, mais
en tout cas. C'est très inspirant d'être dans une entreprise où on sent qu'il y a une histoire familiale. Il y a vraiment des valeurs qui sont vécues, comme je vous le disais, et qui sont incarnées au quotidien. Et on voit que la prochaine génération, qui est incarnée par les deux fils, Pierre-Louis et Étienne, donne beaucoup d'espoir et d'envie de les accompagner. Et on a, en tout cas, moi, je le prends comme ça. J'ai une responsabilité aussi, non seulement vis-à-vis des salariés, mais aussi vis-à-vis de cette nouvelle génération. pour continuer à ce que l'entreprise soit pérenne et prospère.
En tout cas, on sent beaucoup de fierté et d'enthousiasme dans votre discours et par rapport à tout ce que vous nous expliquez, c'est assez inspirant. Et finalement, quand vous avez rejoint le groupe Renner, est-ce que ces valeurs, vous les connaissiez, vous les pressentiez avant de venir ou finalement, vous les avez trouvées en arrivant et c'était le bon matching?
Alors, je ne connaissais pas du tout le groupe Renner quand j'ai fait connaissance avec Geoffroy Roderer et Pierre Imbert, le directeur général. Je ne connaissais pas du tout le groupe. J'ai été très surprise d'abord de leur projet d'entreprise qui m'a vraiment. C'est un projet ambitieux, c'est un projet audacieux qui met vraiment au cœur de son projet tout le pan RH. Pour pouvoir accompagner justement le groupe dans sa croissance. Donc ça, c'est le premier point. Donc là, ils avaient vraiment placé toute la partie RH au centre de leur stratégie. Et le deuxième élément qui m'a vraiment séduite, c'est la partie justement humaniste à travers leur secteur d'activité, mais pas que, vraiment dans la manière qui m'ont présenté le groupe, qui se sont présentés et leur personnalité à tous les deux. Et ensuite, ça a été exactement la même chose lorsque j'ai fait connaissance avec mon équipe et bien entendu avec les membres du CODIR et les collaborateurs.
Donc finalement, tout ça semble assez naturel. Quand ça vient de la direction, il y a une impulsion et après, les équipes suivent assez facilement avec des outils, des moyens, mais toujours sous la bienveillance de la direction qui impulse beaucoup de choses finalement.
Bienveillance et exigence. Je pense que les deux termes, je trouve que de l'exigence sans bienveillance, c'est pas bon, et l'inverse, pareil. Et en fait, la direction, elle est là aussi pour être exemplaire et incarner et partager ce qu'on disait juste précédemment en termes de culture d'entreprise, puisque selon moi, quand on définit un plan stratégique pour pouvoir soutenir et atteindre nos objectifs en termes de performance, en termes justement d'efficacité, il faut absolument que la culture d'entreprise soutienne cette stratégie-là. C'est vraiment très cohérent. On peut pas fonctionner l'un sans l'autre. Et en tout cas, la direction doit veiller à ce que cette culture-là soit adaptée pour pouvoir soutenir les plans stratégiques et être exemplaire dans leur manière de définir leurs actions, de prendre leurs décisions. Et ça doit transpirer sur toutes les facettes de l'entreprise, que ce soit sur la partie recrutement, mais jusqu'à la stratégie commerciale. Donc il y a un alignement à avoir entre justement ce qu'on souhaite en termes d'ambition, mais également par rapport à la manière dont on veut atteindre ces objectifs-là. Donc pour moi, que ce soit la manière de faire ou le quoi, sont super importantes et l'un va avec l'autre en fait.
Ce qui paraît assez évident, mais c'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises. C'est vrai, quand on a une direction finalement qui est inspirante et qui fait ce travail au quotidien, ça facilite certainement, même si quand vous l'expliquez, ça a l'air très simple, on se doute qu'il y a quand même un travail de fond qui est fait au quotidien par l'ensemble des équipes. Et finalement, par rapport à d'autres structures qui justement vont nous écouter ou qui voudraient mettre en place un peu ce management par les valeurs avec ce côté management inspirant, quels sont les conseils que vous pourriez leur donner pour mettre ça en place? Par quoi est-ce qu'on commence?
Donc mon conseil, justement, c'est vraiment de placer les valeurs au cœur de chaque décision et de chaque action. Et ce qui est vraiment important au moment où on définit son ambition, sa raison d'être, et puis justement les plans d'action qui vont conduire l'entreprise à atteindre ses objectifs, c'est vraiment de se poser la question si la culture d'entreprise, c'est-à-dire ses valeurs, son mode de fonctionnement, ses pratiques, sont toujours en ligne avec l'objectif qu'on s'est fixé. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, puisque c'est assez facile de copier une stratégie. Par contre, on peut pas copier une culture. Et ça, c'est vraiment propre à chaque entreprise. Et ce qui compte vraiment, c'est vraiment d'aligner les deux et de vraiment de réfléchir sur qu'est-ce qui fait qu'on est là, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous donne du plaisir pour être dans l'efficacité, pour pouvoir justement être authentique, cohérent dans son organisation Et ce qui compte aussi, c'est vraiment d'être transparent, d'être à l'écoute, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à des entreprises qu'on peut intégrer ou des salariés qu'on peut embaucher. Ce qui compte vraiment, parce que ça stimule l'engagement. Et c'est essentiel pour construire une culture forte et inspirante. En tout cas, moi, vraiment, le conseil que je donne, c'est OK, on a une stratégie, c'est très bien, mais se poser la question, en termes de culture, s'il y a besoin ou pas d'adapter des pratiques, des comportements, des attitudes, en lien toujours, en respectant ces valeurs, pour pouvoir bien les intégrer, les partager et être congruent. Du début à la fin, faire ce qu'on dit par rapport à ce qu'on pense et rester justement aligné.
Est-ce que vous avez un exemple concret de la manière dont ces valeurs ont pu guider une décision, une politique importante au sein du groupe Rodrer?
Comme je vous l'ai dit, donc par rapport à notre projet d'entreprise 2024, donc on a effectivement rédigé un certain nombre donc d'objectifs, basés sur 4 axes. Et un axe est fort est donc de mettre en place une équipe professionnelle et motivée au service de la satisfaction de nos clients. Au regard donc de cet axe-là, donc il y a un levier important qui est donc la partie management. En réaffirmant justement nos valeurs fondamentales à travers nos pratiques donc managériales, pour nous c'était hyper important d'assurer la cohérence d'ensemble. Et donc pour accompagner cette transformation culturelle, on a donc réfléchi sur un programme de développement de compétences de leadership autour de nos 2 valeurs que sont l'humanisme et l'agilité. L'expertise, on l'a mis de côté sur ce programme-là, tout simplement parce que l'expertise compte tenu de notre métier est déjà une compétence forte. Donc, à travers les 2 valeurs agilité et humanisme, on en a donc déduit 3 compétences clés de leadership, à savoir la congruence, la coopération et la symétrie des attentions. Et on a déployé donc un programme qui se déroule sur 12 mois à travers 3 promotions. Alors, pour l'ensemble du CODIR et des managers du groupe Rodrer. Donc, c'est un programme qui nous permettra justement de rester focus, de se questionner, donc justement pour faire les bons choix, d'améliorer notre coopération, notre besoin d'agilité par rapport au monde d'aujourd'hui, d'être en apprentissage permanent et d'adapter aussi son rythme pour pouvoir embarquer et savoir gérer au quotidien une équipe de manière agile et humaniste.
Décidément, toujours de beaux projets. Ah ouais. Vous ne vous ennuyez jamais.
Non.
Et pourtant, j'imagine que vous avez certainement eu des cas où, où vos valeurs ont été un peu chahutées, un peu mises à l'épreuve. Est-ce que c'est déjà arrivé? Comment est-ce que vous avez pu gérer cela?
Actuellement, une de nos branches d'activité est touchée par une crise liée à une cyberattaque de l'un de nos fournisseurs. Et pour gérer en fait cette situation complexe et tendue, on s'appuie sur nos 3 valeurs. Les équipes s'appuient vraiment sur ces 3 valeurs-là, que ce soit la partie expertise et humanisme pour rassurer les collaborateurs, les collaboratrices, mais surtout aussi tous nos clients impactés, et l'agilité pour faire face à cette situation qui est très aléatoire. Nos valeurs, elles sont là justement pour nous guider, nous rassurer et satisfaire nos clients.
Donc finalement, même dans l'adversité, vos valeurs sont un bon moyen de faire face et d'être unis et d'accompagner vos clients.
Exactement, et c'est la preuve qu'elles sont totalement incarnées et partagées par l'ensemble du groupe.
Et voilà, nous arrivons au terme de cet épisode de One Podcast sur le thème de comment façonner sa culture d'entreprise et ses valeurs pour un management inspirant. Un immense merci à Michel Descaillot, DRH du groupe Rodrer, d'avoir partagé sa vision et son expérience avec nous tous. Si cela vous a plu, vous a donné envie de mettre en pratique, de réagir ou d'en savoir plus, partagez vos réactions sur nos réseaux sociaux pour poursuivre ces échanges et faire grandir ensemble les ressources humaines de nos entreprises. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et de partager ce podcast avec vos collègues, vos confrères et votre réseau. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux, page LinkedIn et Facebook, ainsi que sur www.onerh.fr pour vous abonner à notre newsletter et suivez également le groupe Rodrer, puisqu'il y a de beaux projets à venir, on a hâte d'en savoir plus. Encore merci Michel et à très bientôt.
Merci Frédéric, en tout cas c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup.
Plaisir partagé.